Je vais me permettre d'ouvrir la discussion parce que bon, moi j'avais une question. Déjà, encore une fois, hein, merci beaucoup pour cette présentation qui, tout comme la thèse en elle-même, est très claire. La même question, quand tu parles de la frontière juridiquement établie entre droit et politique, tu évoques le fait que puisque c'est le juge qui détermine ce qui relève du domaine politique ou non, ce qui est exclu de son contrôle reçoit du coup quand même. Par cette exclusion, une sorte de sceau de légalité. C'est-à-dire que puisque le juge l'exclut, alors c'est légal. Donc le juge, en reconnaissant une action non juridique, en reconnaissant, oui, une action non juridique, la place en même temps par cette reconnaissance dans la légalité. Mais du coup, je comprends pas bien de quelle légalité on parle à ce moment-là, de la légalité de quelque chose qui n'est pas juridique puisque retranché dans le domaine politique, pardon. Ou alors est-ce que c'est quelque chose de différent, ce serait du coup une légalité qui rentrerait dans la juridicité, mais du coup, ça rentre plus dans le domaine politique selon la définition que tu sembles en donner. Et du coup, si c'est comme il me semble que c'est le cas, une légalité non juridique, est-ce que ça signifie du coup une sorte de présomption irréfragable de légalité ou de constitutionnalité en fait des actes politiques? Dans ce cas, on dépasse assez largement la simple idée de dilution de la responsabilité politique pour complètement l'évacuer du débat juridique, en tout cas.
Je te réponds tout de suite, peut-être. J'espère que j'ai
D'accord.
bien compris ta question. Effectivement, là, tu fais même référence finalement à une conséquence très concrète, c'est-à-dire que quand le juge refuse de se prononcer, l'acte qui était contesté devant lui, tout simplement, ne peut pas faire l'objet d'une censure, il perdure dans l'ordre juridique. Donc, c'est vrai que indirectement, il est considéré comme légal. Sa légalité, au sens large, n'est pas affirmée, mais il n'y a pas le tampon explicite de la légalité qui est offert par le juge. Mais néanmoins, concrètement, l'acte ne peut pas faire l'objet d'une censure. Donc, en ce sens, il est légal. Et à mon avis, ça, c'est quand même important parce que ce que j'ai oublié ce que j'ai pas dit dans le début de mon introduction, c'est qu'effectivement, très vite, je me suis limitée à ces trois cas, le cas français, le cas britannique et le cas américain. Mais au tout début, je pensais aussi m'intéresser au cas allemand. Et ça peut être intéressant pour la question que tu me poses parce que le cas allemand prend véritablement le contre-pied de ce qui se passe dans ces trois laboratoires d'études, puisque en principe, le juge de la Cour constitutionnelle fédérale allemande peut tout contrôler. Il n'existe pas de doctrine des questions politiques devant le juge allemand. Sauf que ce qu'on constate, c'est que dans les faits, sur des sujets qui sont relativement similaires à ceux relatifs à la conduite des relations internationales ou les rapports entre organes constitutionnels, le juge allemand effectue donc son contrôle. Il ne se déclare pas incompétent, mais par contre, son contrôle est finalement tellement restreint qu'il en vient toujours à reconnaître la constitutionnalité de ce type d'acte. Et là, à mon avis, on voit un petit peu la similitude entre les deux. C'est-à-dire que là, la loi ou l'acte est clairement validé. Il a le sceau de la légalité, il a le tampon de légalité offert par la Cour constitutionnelle fédérale. Mais concrètement, dans les faits, il se passe exactement la même chose pour les actes de gouvernement ou par les questions politiques. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en
Oui,
disant ça,
si,
mais
c'était dans le fond, c'était ça. Ouais.
les conséquences concrètes sont effectivement les mêmes. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier parce que justement, on se focalise sur l'irrecevabilité du litige, l'incompétence du juge et l'absence de réponse. Mais en réalité, cette absence de réponse, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même comme conséquence concrète de valider indirectement la décision. Voilà, je pense, en tout cas.
Du coup, quand tu dis qu'il y a cette reconnaissance de légalité, c'est simplement les litiges qui sont rejetés directement, expressément, on va dire, par le juge. Ce n'est pas tous les litiges qui ne sont pas contrôlés par le juge. Évidemment que ça ne l'est pas, mais.
Alors, ça, c'est un sujet qui a pas mal fait parler, d'ailleurs, pas tant à ma soutenance, mais même après, quand je discutais de ma thèse, où on m'interrogeait finalement sur le fait d'isoler la doctrine des questions politiques par rapport à peut-être différents degrés de contrôle, par rapport à un contrôle restreint. Moi, à mon sens, il y a quand même une spécificité à mettre à souligner. Je ne pense pas qu'on puisse dire que lorsque le juge administratif reconnaît un acte de gouvernement, il fait exactement la même chose que quand il exerce un contrôle, même le plus restreint soit-il. Tout simplement parce que c'est quand même étonnant, dans le contexte actuel d'ouverture progressive du prétoire, que le juge ose dire « non, là, je ne me prononcerai pas ». À mon avis, ce n'est pas du tout la même logique, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences que de dire « je contrôle », même si effectivement ce contrôle reste très restreint. Mais dans la pratique, les conséquences sont les mêmes sur la légalité de l'acte. Okay.
Voilà. Merci. Du coup, Laura, si tu avais levé la main.
Désolée pour les autres participants, on monopolise peut-être la parole. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, qui est tout comme la thèse qui était très très agréable à lire. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai une petite question que je me suis posée, c'était qui concerne plus particulièrement les États-Unis. Est-ce que la doctrine qui a une lecture départementaliste de la Constitution s'est saisie de cette question des questions politiques, et si oui, quelles sont les conséquences? Et j'ai une deuxième question qui traite plus de la méthode. Quand on travaille comme ça sur une thèse de droit comparé, comment est-ce qu'on traite le problème de la traduction juridique?
Vaste question. Sur la première d'ailleurs, je dois avouer que c'est un point que je vais devoir creuser, que j'avais déjà que Quentin Epron avait abordé lors de ma soutenance de thèse, puisqu'il s'intéresse particulièrement à ces questions. Et effectivement, je ne me suis pas penchée sur la thèse départementaliste, mais du coup, je ne pourrais pas répondre s'il y a effectivement chez ces auteurs une réflexion spécifique sur la political question doctrine. Néanmoins, intuitivement, j'aurais tendance à penser que oui, puisque c'est bien évidemment une manifestation, c'est peut-être la manifestation la plus évidente et concrète de la séparation des pouvoirs et de la spécialisation fonctionnelle des juridictions. Donc, je ne peux que répondre intuitivement, mais sans données précises. En ce qui concerne la traduction, alors, ce qu'il faut savoir, donc je vous l'ai dit, j'ai fait le Master 2 de droit public approfondi. Donc, je n'ai pas de formation de comparatisme. Enfin, j'ai fait mon Master 2 était tourné vers le droit comparé, mais je n'ai pas du tout une formation de comparatiste. Et surtout, je pense ce que j'essayais de vous dire aussi, c'est que le droit comparé, ce n'était pas véritablement mon objet, mais c'était plutôt un instrument pour moi. Et je n'ai pas forcément réfléchi en amont à une méthode dans le droit comparé extrêmement précise, etc. Le but, c'était, j'ai véritablement utilisé le droit comparé un petit peu à ma guise pour répondre à cette question, et notamment parce que ça avait été très peu fait. En fait, ce que je trouvais assez étonnant, c'était que dans tous les travaux, alors déjà dans les travaux français, par exemple dans la thèse de Pierre Seurand qui concerne les actes de gouvernement, ou même dans le travail de Paul Duès sur les actes de gouvernement, vous trouvez toujours des phrases très affirmatives de l'acte de gouvernement existe également en droit comparé, et là il y a la théorie des act of state anglais qui est citée, ou la théorie des political question, mais jamais plus. J'ai pas trouvé d'études comparées à ce sujet. Donc, encore une fois, c'est vraiment, pour moi, le droit comparé, c'est un instrument. Du coup, du point de vue de la traduction, comment on veut dire ça, j'ai pas de philosophie de la traduction, tout comme j'ai pas de philosophie de droit comparé. Par contre, je crois que le seul conseil que je me suis appliqué à moi-même, c'est que j'ai pas forcé la traduction quand je ne trouvais pas d'équivalent. C'est pour ça qu'à un moment, des fois dans certaines de mes traductions, il y a effectivement des termes américains ou anglais qui restent. J'hésitais pas aussi, même quand je proposais parfois une traduction, en tout cas pour certaines notions, à le mettre entre parenthèses, à laisser le terme anglais. Et parfois même, généralement, je précisais aussi, il y a pas mal dans mes souvenirs, dans mes notes de bas de page, de remarques en fait sur les traductions qui ont été choisies, quand des fois c'est des traductions qui émanent il y a beaucoup de traductions d'Elisabeth Zoller, par exemple, je précise, et des fois il y a même quelques petites phrases de discussion des traductions. Donc voilà, encore une fois, pas d'approche de principe de la traduction de ma part, mais plutôt du cas par cas. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, je crois qu'il y a quelques questions dans le chat. Ouais,
je vois une question dans le chat. Est-ce que vous voulez que je la lise?
Je peux la lire.
Ben, voilà, ça fera plus dialogue, c'est bon.
Je me demandais si la théorie du pouvoir discrétionnaire n'était pas là pour brouiller la dissociation stricte droit politique. Est-ce que dans vos recherches, vous avez essayé de comparer celle-ci avec la doctrine des questions politiques, ou êtes-vous resté sur une dissociation des sujets en raison des conséquences, entre parenthèses, incompétence, nature du contrôle?
Oui. Merci pour la question. Alors, effectivement, il y a toute une partie, enfin une sous-section dans ma thèse où je reviens sur la théorie du pouvoir discrétionnaire qui est effectivement, on constate chez certains auteurs une volonté de lier les deux questions. Finalement, on prend le problème à l'envers, au lieu de se focaliser sur la réponse du juge, enfin le juge qui prononce qui se déclare incompétent, on se tourne vers l'acte et l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de l'auteur de l'acte. À mon sens, ce rapprochement, il n'est pas entièrement convaincant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Effectivement, ce n'est pas ce qu'on considère que dans certains domaines, le gouvernement ou d'ailleurs le Parlement, hein, parce que je traite aussi des actes parlementaires, doit avoir une marge de manœuvre supérieure, donc on pourrait dire un pouvoir discrétionnaire, que le juge refuse de se prononcer. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas entièrement assimiler les deux, dans le sens où l'existence d'un pouvoir discrétionnaire n'a jamais empêché, par principe, le juge de se prononcer. Là, on en revient à la discussion que j'avais à l'instant avec Marcia, c'est-à-dire finalement sur la nécessité, à mon sens, de dissocier un refus frontal de se prononcer, comme c'est le cas pour la doctrine des questions politiques, et l'existence d'un contrôle, mais qui serait restreint et limité. À mon avis, ce n'est pas du tout la même chose, parce que nécessairement, le juge se met beaucoup plus en porte-à-faux, il prend beaucoup plus de risques à dire « je refuse de me prononcer ». Et donc ça, il faut peut-être analyser cette prise de risque-là. Il serait beaucoup plus simple pour le juge, à partir de maintenant, de ne plus invoquer, par exemple, la théorie des actes de gouvernement, de se prononcer sur tous les actes et finalement d'opérer un contrôle tellement restreint en invoquant un pouvoir discrétionnaire de l'auteur de l'acte et d'en conclure toujours à la légalité de l'acte qui est pris. Un des arguments que je prenais pour dissocier la théorie du pouvoir discrétionnaire et, on va prendre le cas français pour l'acte de gouvernement, c'est que vous avez parfois des jurisprudences où un acte de gouvernement est reconnu, alors même que des conditions d'édiction de l'acte sont clairement posées. Le cas le plus connu, c'est Rubin de Servance. Le déclenchement de l'article 16 ne peut pas faire l'objet d'un contrôle. Est-ce que pour autant ça signifie qu'il n'y a aucune contrainte juridique, il n'y a aucune règle juridique qui pèse sur le président lorsqu'il déclenche l'article 16? Bah, si on en croit l'article 16, bien évidemment qu'il y a des conditions qui se posent. Néanmoins, refus de principe du juge de se prononcer. Donc, à mon avis, il y a vraiment quelque chose de spécifique effectivement sur la doctrine des questions politiques par rapport à la notion de pouvoir discrétionnaire. Mais effectivement, ce n'est pas sans lien. Est-ce que dans vos recherches, vous avez essayé de comparer celle-ci avec… j'ai répondu. ou êtes-vous resté… ouais. Donc, c'est vraiment ça. À mon avis, les deux sujets ne sont bien évidemment pas sans lien. mais je ne mettrai pas ça exactement dans le même sac parce que j'ai l'impression que la démarche qui est faite par le juge lorsqu'il affirme son incompétence dans le cadre d'une question politique est bien plus, a des conséquences particulières que n'a pas la reconnaissance d'un pouvoir discrétionnaire et l'exercice d'un contrôle même restreint. Voilà. Quand il invoque la doctrine des questions politiques, finalement, si je peux me permettre le terme, il montre patte blanche, il dit « je n'interviendrai pas dans ce domaine réservé », alors que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, il intervient malgré tout, même si c'est de manière restreinte. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu mieux.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être. Moi, j'en ai d'autres. En attendant, je vais poser la mienne. Ah non. Ok. Bah, vous prenez la. Je ne sais pas comment on fait. Oui, monsieur Éric Bruges.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Ouais, alors merci beaucoup déjà pour votre présentation qui était très claire. Voilà, je n'étais pas forcément prioritaire dans les questions parce que je ne suis ni doctorant, ni docteur, ni même futur docteur, certainement. Toutefois, voilà, j'avais quelques petites questions à poser. La première, c'est... dans votre présentation, en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de feuilleter votre travail de thèse, vous faites une restitution assez englobante de cette doctrine des questions politiques, au sens où, et ce qui voilà, est bien sûr l'intérêt de votre travail, vous cherchez les points communs entre les différents systèmes juridiques et l'application et la conception de cette doctrine dans les trois pays que vous étudiez. Du coup, ma première question, c'était est-ce qu'il n'y a pas néanmoins des différences substantielles de compréhension de cette doctrine entre les trois pays, et notamment sur deux axes particuliers. J'avais un peu étudié, notamment sur le plan constitutionnel français, des questions de société. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouverait de la même manière aux États-Unis, notamment. Pour le dire autrement, le juge français, notamment le Conseil constitutionnel, a quand même une certaine réserve à se pencher sur les questions de société, réserve qu'on ne va peut-être pas retrouver de la même manière dans les deux autres pays que vous avez étudiés. Et donc, est-ce que l'analyse de ces différences entre pays n'en dit pas aussi beaucoup, et pour prolonger la thèse que vous développez, sur la place que le juge lui-même, lorsqu'il a à juger de ces questions, s'attribue dans le paysage constitutionnel de son pays. Ou pour le dire autrement, si la doctrine des questions politiques, comme vous le développez, a notamment pour but d'affirmer le caractère apolitique du juge, est-ce que l'ampleur qu'il va donner à cette doctrine ne va pas en dire beaucoup sur la vision que le juge a de sa propre légitimité et de son office dans le secteur ou le domaine constitutionnel qui est le sien ? Et deuxième question dans la même veine, est-ce que cette place ou cette ampleur différente de cette doctrine n'en dit pas aussi beaucoup sur la conception de la séparation des pouvoirs, selon que le juge va chercher à protéger ou à immuniser les actes de tel ou tel pouvoir de manière privilégiée ? Et là encore, est-ce que selon les différents pays, on aurait des orientations privilégiées ? Selon que le juge va préserver d'une part sa propre compétence, qui peut aussi être le cas, ou qui va privilégier plutôt le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, voire les entités peut-être fédérées également dans le cas américain. Et une deuxième question qui concerne aussi, voilà, pas des remises en cause de cette unicité de la doctrine des questions politiques, mais en tout cas pour essayer de voir s'il n'y a pas aussi des petites différences. S'agissant de l'évolution du champ de cette doctrine, mon sentiment à partir du cas français notamment, c'est qu'elle a quand même tendance à se réduire, même s'il y a un noyau dur qui demeure, moi pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le Parlement, on voit qu'il y a un certain nombre d'actes qui ne sont pas justiciables et voilà, il n'y a pas forcément d'évolution vers une plus forte justiciabilité, mais mon sentiment, c'est qu'il y a quand même des actes qui hier n'étaient pas justiciables et qui le sont devenus. Et donc, ma question, c'était de savoir si c'était une tendance qu'on observait dans les trois pays que vous avez étudiés ou si c'est une tendance qui est assez propre, au final, au système français. Merci.
Merci beaucoup pour vos questions. Je ne réponds pas forcément dans l'ordre tant que j'y pense. Sur la première question, la réduction de la catégorie jurisprudentielle, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que j'ai parlé effectivement dans ma présentation, enfin j'ai dit que la doctrine question poétique était restée relativement en marge de ce mouvement d'extension du champ de contrôle du juge. En réalité, j'aurais dû être plus précise, puisqu'effectivement on constate une invocation de plus en plus rare de la doctrine des questions poétiques. Disons que là où elle se démarque, donc là je précise sur tout ce que je disais, là où elle se démarque des autres critères de justiciabilité, c'est que cette réduction de la catégorie des questions poétiques, elle ne repose pas sur un même argumentaire celui qui a invoqué pour les autres critères de recevabilité, je ne sais pas, l'intérêt à agir, les effets du droit souple, la réduction des MOI, etc., où là, véritablement, il y a toute une réflexion sur la garantie des droits des justiciables. Ce qu'on constate en ce qui concerne spécifiquement la doctrine des questions poétiques, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'argumentaire, puisque c'est simplement que la doctrine n'est plus invoquée. On va avoir ce qui était un acte de gouvernement avant, qui ne l'est plus dans une décision, et on va se contenter, surtout en France, généralement d'une formule peu explicative du type « il s'agit d'un acte détachable de la conduite des relations internationales », par exemple. Alors, c'est une tendance, cette réduction de l'invocation des questions politiques qui se confirme dans les trois pays. Par contre, là où, enfin moi en tout cas, ce que j'ai cru observer, c'est que cette tendance à la réduction, elle est bien plus perceptible dans l'un des pans, dans l'un des deux domaines qui est celui que vous invoquez, c'est-à-dire les relations entre les pouvoirs constitutionnels. Par contre, cette tendance à la réduction, elle est beaucoup moins perceptible à mon sens en ce qui concerne les relations internationales. Et une des choses que j'en venais à dire dans ma thèse, c'est que désormais, la conduite des relations internationales constitue véritablement le vivier quasiment unique, ce serait un peu fort, mais en tout cas le vivier vraiment principal des questions politiques. Et donc ça interroge effectivement cette tendance à la réduction. Elle n'a pas encore touché, à mon avis, ou du moins pas aussi fortement, la question des relations internationales. Donc, elle a mis en exergue la spécificité, à mon avis, de ce domaine. Et encore, je suis en train de me poser un petit peu la question en ce moment par rapport à des recherches que je fais. Je devrais participer dans quelques temps à un colloque sur la question du contrôle juridictionnel de l'exportation d'armes. Et effectivement, ça m'a donné l'occasion de me repencher sur ces questions. Et je me suis rendu compte que même dans le domaine de la conduite des relations internationales, s'il y a encore des actes de gouvernement, il y a encore des questions politiques, j'ai l'impression que les lignes commencent un petit peu à bouger. Les lignes commencent à bouger d'une façon un petit peu, par le biais d'un mécanisme auquel on n'aurait pas forcément pensé. Qui est finalement l'invocation des normes internationales. C'est le cas, par exemple, je vous renvoie aux ordonnances de référé qui datent maintenant de 2019, je crois, sur la question des femmes de djihadistes et de leurs enfants bloqués en Syrie. Le Conseil d'État a refusé de se prononcer, il a considéré que c'était indétachable de la conduite des relations internationales, mais néanmoins, il y a quand même cette invocation, notamment du droit au recours, qu'on retrouve et qui, à mon avis, pourrait peut-être finir par convaincre les juges. Ce qui me fait dire ça, ce n'est pas seulement mon intuition, mais c'est aussi parce que finalement, c'est quelque chose qu'on peut observer dans la jurisprudence étrangère ou même dans la législation étrangère. On voit que les choses commencent à bouger sur ce point-là. Bref, je m'arrête sur cette question parce que j'en ai d'autres. J'ai d'autres questions sur lesquelles vous répondre. Sur l'ampleur de l'ampleur de la doctrine question poétique, enfin, les différences entre les trois laboratoires d'études. Alors, effectivement, on ne peut pas, même s'il y a apparemment une identité matérielle des litiges, on peut malgré tout constater des différences. Mais ces différences, à mon avis, elles sont surtout d'ordre argumentatif, justificatif, c'est-à-dire que la manière dont le juge américain présente enfin, identifie une question poétique n'est pas du tout la même que celle du juge français qui reconnaît un acte de gouvernement. Et à l'inverse, à mon avis, c'est le cas le plus qui se distingue le plus, c'est le cas du juge anglais, où là, véritablement, je me suis confrontée à un cas qui est très spécifique. Je vous dis en un mot pourquoi. Parce que devant le juge anglais, il y a quelque chose qui peut, nous, juristes français, nous étonner. C'est une certaine confusion entre la question de la recevabilité et de l'examen en fond. Le juge anglais a, dans certains cas, parfois tendance à vous dire, je caricature son propos, c'est parce qu'effectivement il y a illégalité que je vais me prononcer. Donc c'est parce qu'il a identifié une illégalité qu'il va se prononcer. Donc forcément, il y a l'approche de principe qu'on peut avoir de l'acte de gouvernement ou de la political question aux États-Unis fonctionne assez mal en Angleterre. Malgré ces différences d'approche, j'ai constaté un point commun qui, à mon avis, est intéressant en termes de d'équilibre constitutionnel, de trajectoire des différents systèmes constitutionnels contemporains, c'est que la doctrine des questions politiques dans les trois laboratoires d'études, elle est toujours à la faveur de l'organe exécutif. Du moins, c'est ce que j'ai cru remarquer. D'ailleurs, vous voyez que c'est assez cohérent avec ce que je vous disais sur le fait que c'est la conduite des relations internationales qui reste encore le vivier principal des questions politiques. Ça, c'est un point qui m'a assez intéressée. Donc, ça faisait partie des conséquences concrètes sur la séparation des pouvoirs que je vous mentionnais tout à l'heure. Ça m'a d'autant plus intéressée que ce constat s'appliquait à la fois dans le régime parlementaire britannique, dans notre régime parlementaire, on ne sait pas exactement comment l'appeler, hybride à captation présidentielle français, mais aussi dans le régime présidentiel, congressionnel américain. Donc, à mon avis, ça, c'est quand même un point. Après, peut-être que j'ai effectivement excessivement insisté sur les points communs, mais c'est vraiment une trajectoire commune qui, moi, m'a intéressée, où j'ai cru quand même, enfin, j'ai eu l'impression que la doctrine des questions politiques, elle avait une même conséquence dans les trois États, renforcer l'organe exécutif. Voilà, et donc sur la. Parce que vous m'avez surtout parlé de la distinction entre les trois pays, et que je, bien évidemment, je nie pas du tout les distinctions, surtout, mais ça, j'ai pas eu le temps de trop développer dans mon petit speech. Là où j'ai trouvé les différences les plus intéressantes, encore une fois, c'est plus sur la réception doctrinale de la question politique que sur la jurisprudence elle-même. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. En France, aujourd'hui, je suppose que, comme moi, quand vous étiez en L2 et qu'on vous a présenté l'acte de gouvernement, on vous a présenté ça sous l'angle de la fonction gouvernementale qui serait distincte de la fonction administrative. Moi, on me l'a vraiment présenté comme ça. Ce qui, pour moi, est une théorie que je mettrais dans ce que j'ai appelé les théories juridiques. C'est-à-dire qu'on cherche à montrer que le juge est contraint lorsqu'il identifie un acte de gouvernement. On a aussi eu en France ce que j'appellerais des théories politiques, c'est-à-dire qui considèrent que l'acte de gouvernement, c'est le résultat de la raison d'État. Sauf que chez nous, ces théories, elles commencent à être largement obsolètes et véritablement, le discours dominant serait plutôt une explication juridique, une rationalisation juridique de l'acte de gouvernement. Aux États-Unis, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que lorsque la Cour suprême a commencé à identifier des questions politiques, on avait tendance justement à rattacher l'identification de cette question politique à la répartition des compétences prévues dans la Constitution. Donc une approche véritablement juridique, contrainte juridiquement parlant. Aujourd'hui, c'est vraiment la théorie prudentielle qui a le vent en poupe aux États-Unis. La majorité des auteurs considèrent que lorsqu'il identifie une question politique, le juge finalement a une marge de manœuvre. Enfin, c'est véritablement son choix, ça résulte de son choix de ne pas se prononcer. Et ça, c'est quand même assez révélateur, à mon avis, de ce que ça dit de la manière d'envisager la fonction juridictionnelle dans les différents États. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'espère que j'ai répondu.
Merci.
Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui, Monsieur Karmis.
Bonjour, bonjour Claire, merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup aux organisatrices. J'aurais deux questions qui s'inscrivent dans le sillage de ce qui a été dit jusqu'à l'instant. Premièrement, je me demande si quand le juge il affirme alors son incompétence, est-ce qu'il déploie vraiment une argumentation? C'est-à-dire que est-ce qu'ils essaient de convaincre quand alors il décline sa compétence? Tu as évoqué le cas américain, le cas du juge américain et l'invocation d'un équilibre institutionnel portant sur la séparation de pouvoirs, etc. Mais est-ce qu'on pourrait alors tracer une sorte de liste d'arguments principaux qui sont évoqués et qui se présentent dans le discours? Parce que tu as évoqué aussi le mot discours. Tu as examiné alors le discours de juge. Alors, c'est la première question que je me suis posée. Alors, la deuxième, alors, apparemment, la tendance est celle de l'ouverture du prétoire, en vertu alors de la reconnaissance de droits de justiciable. Peut-on détecter de traces d'une tendance qui serait l'inverse, c'est-à-dire de questions qui jadis étaient des questions susceptibles de faire l'objet d'une appréciation de la part du juge, mais qui, pour des raisons nouvelles, pourrait-on dire, s'inscrivent de nouveau dans un champ qui ne serait que celui de l'action gouvernementale. Voilà, ce sont mes deux questions.
Merci Nicolas. Alors, est-ce que le juge, lorsqu'il est compétent dans le cadre des questions politiques, justifie-t-il son incompétence? Je pense que ma réponse ne va pas vous surprendre. La réponse est très différente entre le juge français et le juge américain ou le juge anglais qui, ces deux derniers sont bien évidemment bien plus prolixes, bien plus bavards sur les raisons qui justifient leur incompétence. Ce que je me suis rendu compte et qui m'a d'ailleurs assez étonnée quand j'ai commencé à me pencher sur la question, c'est que finalement le juge administratif français utilise très rarement le terme d'acte de gouvernement. Généralement, il utilise des paraphrases. Alors pour les questions relatives aux relations internationales, c'est assez simple. Hein. Il dit c'est un acte détachable ou indétachable plutôt des relations internationales. Et il y a effectivement très peu de justifications. Il y a peu d'indices en plus. On est plus dans l'affirmation que véritablement dans l'argumentation. D'ailleurs, ça se traduit dans la doctrine française par de grandes difficultés de rationalisation de l'identification de l'acte de gouvernement. Par contre, si on compare avec les États-Unis, sans pour autant dire qu'aux États-Unis, c'est bien plus clair et que je serais capable de te donner une liste des critères d'identification déterminés et précis des political questions. En tout cas, il y a une tentative d'explication qui est un petit peu plus forte dans la jurisprudence de la Cour suprême. Le cas le plus parlant, c'est Baker versus Carr. Je ne sais pas, je vais l'écrire dans le chat. Qui est vraiment le cas qu'on cite lorsqu'on étudie la doctrine des questions politiques. C'est un arrêt de 64, si je ne me trompe pas, Baker versus Carr, où là, la Cour suprême essaie un petit peu de nous donner un mode d'emploi de l'identification de la political question, sauf que pour ce faire, elle nous donne, je crois qu'il y a six cas différents, qui d'ailleurs ne sont pas tous totalement faciles à distinguer, et qui mélange à la fois des explications purement juridiques. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, le juge vous dit, il y a question politique lorsque une compétence est clairement et expressément attribuée au Congrès ou au gouvernement. Dans ce cas-là, c'est une question politique, je ne me prononce pas. Donc ça, c'est véritablement une justification par le biais du texte constitutionnel. Et à côté de ça, il y a des éléments qui, pour le coup, relèvent plus des théories prudentielles. On vous dit pas, enfin, la Cour suprême, dans cet arrêt, vous dit par exemple, il y a question politique lorsque une décision du juge pourrait finalement embarrasser le gouvernement. Donc là, on est vraiment plus dans quelque chose de, voilà, d'institutionnel et de stratégique, plus que véritablement juridique. Donc, il y a un effort qui est de justification qui est bien supérieur aux États-Unis, mais cet effort de justification ne correspond pas forcément à plus de clarté. C'est-à-dire que on vous a, dans Baker versus Carr, on vous explique toutes les situations dans lesquelles on peut identifier une question politique, mais finalement, c'est tellement large que vous n'en savez pas beaucoup plus. Et généralement, quand le juge américain invoque une question politique, il va se cacher derrière l'un des six critères qui est donné dans Baker versus Carr, mais il peut vraiment faire son marché là-dedans puisque les critères sont excessivement larges. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, même lorsque le gouvernement est embarrassé par une réponse, où il y a aussi cette idée, lorsqu'il faut finalement qu'il y ait une seule réponse qui soit donnée, il ne faut pas qu'il y ait de… C'est un litige qui appelle une solution unique et incontestable. Il y a une formulation comme ça. Bon, c'est finalement très, très large. Pour le cas anglais, là aussi, il y a un effort de justification qui est plus perceptible que devant le juge administratif français. Mais très souvent, comme je vous le disais avant, il y a une confusion la plus grande entre recevabilité et examen au fond. Et donc, très souvent, quand le juge anglais refuse de se prononcer, c'est parce qu'avant, il n'a pas véritablement creusé la question de la légalité. Et donc, ce qui est suggéré, c'est que, de toute façon, l'acte aurait été conforme, aurait été légal. Et parfois, à mon avis, le juge anglais, là, pour le coup, c'est un petit peu un entre-deux. Il a aussi eu tendance, dans certains cas, à affirmer, donc à être dans l'affirmation plutôt que dans l'explication ou la justification, à dire il y a des litiges qui, par nature, ne relèvent pas du juge. Et là, il citait le droit de grâce, la conduite des relations internationales, etc., etc. Mais là, encore une fois, on était dans l'affirmation d'une nature politique qui serait évidente, sans justification. Donc là, c'est de la justification après par la doctrine du précédent, c'est-à-dire qu'il invoque simplement cet arrêt dans lequel il y a ces domaines qui sont listés. Est-ce qu'on peut, et après tu m'as posé comme question, est-ce qu'on peut parfois voir un mouvement inverse, c'est-à-dire des actes qui avant n'étaient pas considérés comme des questions politiques et qui le sont devenus par la suite? À mon avis, il n'y a pas de tendance en ce sens. À la limite, ce qu'on pourrait plus identifier, c'est des cas où il y a des allers-retours, c'est-à-dire des actes où véritablement… c'était un peu le cas, par exemple, pour la question de l'exportation d'armes. On a le tribunal administratif qui vous dit que c'est indétachable de la conduite des relations internationales, la cour administrative d'appel qui vous dit c'est détachable, là on attend ce que va dire le Conseil d'État, mais je pense qu'il n'y a pas de… Enfin, j'identifie pas en tout cas un domaine où il y a un recul. Au mieux, il y a une incertitude. Voilà. Mais globalement, non, je n'identifie pas de recul, de mouvement contraire à cette tendance.
Très bien. Est-ce que je vais poser une question en attendant de voir si d'autres personnes en ont, parce qu'il y en a encore une, qui reprend un petit peu finalement à partir de la réponse que tu m'as fait à celle de tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, moi en lisant le début de ta thèse, effectivement j'avais le cas allemand en tête, donc j'étais très heureuse de le retrouver à la fin et d'avoir tes explications là-dessus, mais finalement, cette distinction entre le cas allemand et les cas auquel tu t'intéresses au principal, c'est, donc si j'ai bien compris, c'est pas en réalité que dans un cas il y a un contrôle juridictionnel de l'acte et dans l'autre il n'y a rien, c'est simplement que le juge allemand, tout en effectivement, comme tu l'as dit, évacuant certaines choses et en amoindrissant son contrôle sur certains éléments, ou en ayant un contrôle purement formel pour dire que finalement c'est légal, le juge allemand s'autorise quand même à appeler certains actes qu'il contrôle, des actes politiques, ou en tout cas, s'il ne les appelle pas lui-même, ça je ne sais pas trop, parce que je ne suis jamais allée lire les décisions de la Cour allemande, mais s'il ne les appelle pas comme ça lui-même, en tout cas, il contrôle des actes qui sont reconnus comme politiques, alors qu'en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, le juge utilise précisément cette distinction pour exclure les éléments politiques de son contrôle. Et à partir de là, au regard des éléments que tu avances au début de ta thèse sur la séparation des pouvoirs et le développement de cette théorie, est-ce qu'on peut en conclure du coup que la juridiction constitutionnelle fédérale allemande remet en cause la séparation des pouvoirs au profit d'une conception de l'état de droit en s'immisçant finalement ouvertement, alors même que d'autres États se l'interdisent, dans l'action politique des pouvoirs législatifs et surtout exécutifs? Et même plus, est-ce que ça remet en cause du coup ce que tu disais au début de ta présentation, est-ce que ça remet en cause un aspect, pas le caractère démocratique du régime allemand, bien sûr, mais un aspect démocratique du régime allemand en mettant trop en avant finalement l'état de droit par rapport au principe démocratique et en empiétant sur une compétence politique du corps électoral qui serait l'arbitrage.
Alors effectivement, moi, ce qui est intéressant dans le cas allemand, c'est qu'il ne faut pas nier qu'effectivement, là où il y a un contrôle très restreint, ça touche quand même exactement les mêmes domaines que les questions politiques. Et ça, ça m'a quand même amené à réfléchir un moment parce que j'ai essayé de démontrer qu'il fallait remettre en cause une vision essentialiste de la doctrine des questions politiques, il fallait dépasser cette idée d'essence politique. Mais lorsqu'on ajoute le cas allemand à l'adéquation, on se retrouve dans la situation à laquelle j'étais confrontée au tout début de mes recherches, c'est-à-dire identité matérielle de ce qui est généralement considéré comme politique. Donc ça m'a un petit peu posé problème. À mon avis, la chose à voir là-dedans, il ne s'agit pas bien évidemment de dire qu'il y a... je ne sais pas, que l'État allemand ne serait pas démocratique, etc. C'est faut le dire autrement, c'est-à-dire que c'est une conception de la démocratie et de l'État de droit qui sont tout à fait différentes. Pour le dire plus précisément, il y a deux aspects, enfin là je rentre dans des grands débats que je ne maîtrise sans doute pas suffisamment, mais il y a quand même deux manières d'aborder la démocratie, ce que j'appelle la démocratie formelle, donc vraiment la conception formelle de la démocratie, c'est-à-dire parce que le principe majoritaire, si on veut dire les choses très grosso modo, et une conception bien plus substantielle, donc la garantie des droits et libertés, et dans ce cas-là, on tombe sur la nécessité d'ouvrir au maximum les possibilités de recours au juge. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas allemand, le choix qui a été fait, enfin la conception démocratique qui a l'air dominante, c'est celle finalement d'une conception démocratique plus substantielle, c'est-à-dire qu'on accepte que le juge se prononce sur tout, et la justification, c'est une meilleure garantie des droits et libertés. Là où finalement, ce qui poserait plus problème dans les États où on reconnaît la doctrine des questions politiques, comme en France, en Angleterre ou aux États-Unis, c'est conserver un autre impératif important et qui est un impératif, à mon avis, qui découle aussi de la démocratie, c'est-à-dire garantir malgré tout la marge de manœuvre d'organes qui sont soit élus directement, soit indirectement. C'est pour ça qu'il y a je ne l'ai pas mentionné dans le speech, mais j'en parle assez longuement dans la thèse. C'est toute cette question aux États-Unis sur la difficulté contre-majoritaire. C'est-à-dire le gros problème, je ne sais pas si c'est une question que vous connaissez ou qui est très traitée, mais c'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui a assez obsédé la doctrine américaine, c'est de finalement comprendre que malgré cette tendance à l'extension du contrôle juridictionnel, dans le pays, aux États-Unis, où on a le plus tôt reconnu la compétence du juge de contrôler la constitutionnalité de la loi, c'est là aussi où on s'est plus posé la question des limites d'un point de vue démocratique de ce contrôle juridictionnel. C'est-à-dire que finalement, le juge, lorsqu'il contrôle une loi, est-ce qu'il ne porterait pas atteinte au principe démocratique puisqu'il porte atteinte au principe majoritaire? Donc ça, c'est sans doute des questions qui sont... insoluble, ou alors il faudrait refaire une thèse spécifiquement sur ça. Mais effectivement, ça dit très concrètement ce qui se passe dans le cas allemand. Ce que ça révèle, c'est bien évidemment une conception tout à fait différente du juge et de la place du juge. D'ailleurs, j'avais vu ça à un moment, il y avait des sondages à ce propos. Les Allemands ont véritablement une confiance, enfin, je crois que c'est l'organe de gouvernement le plus plébiscité par la population allemande, c'est la Cour constitutionnelle fédérale. Je ne suis pas sûre qu'en France, si on faisait un sondage pareil sur le Conseil constitutionnel, les gens ont-ils même, enfin je veux dire les gens en dehors de nous et des étudiants de droit, savent-ils véritablement quelle est la mission du Conseil constitutionnel? Je pense que ce serait la réponse serait beaucoup plus limitée, et ça c'est forcément le produit d'une histoire spécifique. À mon avis, ça dit surtout quelque chose sur ça, sur la conception du juge et le rapport au juge.
D'accord, mais en tout cas, ça, sur le, au-delà de la démocratie et de l'état de droit, sur la séparation des pouvoirs, ça ne la remet pas nécessairement en cause, même si ça l'amoindrit quand même.
Alors là, encore une fois, hein, je réponds à ta question sans avoir fait une analyse poussée de la jurisprudence allemande, mais concrètement, les réponses qui sont apportées par la Cour constitutionnelle fédérale allemande ont l'air d'avoir les mêmes conséquences que la doctrine des questions politiques en France, aux États-Unis ou en Angleterre. C'est-à-dire que, et donc c'est en ce sens qu'il n'y aurait pas forcément de remise en cause concrète, en tout cas, de la séparation des pouvoirs, dans le sens où il y a quand même une marge de manœuvre particulière qui est garantie au gouvernement allemand par le biais d'un contrôle restreint. C'est juste que cette marge de manœuvre, elle est garantie pas par principe, pas en se déclarant incompétent par principe, mais par le biais d'un contrôle restreint. Donc, à mon avis, concrètement, sur l'équilibre des pouvoirs, c'est pas là que ça se joue. Là où peut effectivement y avoir autre chose, où peut y avoir quelque chose de différent, pardon, dans le cas allemand, c'est ce que ça dit du juge lui-même. C'est-à-dire que la manière du juge allemand d'asseoir sa légitimité, c'est pas en montrant la spécificité et le caractère restreint de son office, comme ça peut être le cas en France ou aux États-Unis ou en Angleterre, mais tout au contraire, il a l'air d'asseoir sa légitimité plutôt sur sa capacité ou sa compétence à tout contrôler. Donc, à mon avis, c'est sur ce point-là de la séparation des pouvoirs qu'il y a une véritable différence. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du cas allemand. Pour tout vous dire, j'ai vite réalisé que j'avais sans doute pas les compétences en langue allemande suffisantes pour pouvoir étudier ça de suffisamment près.
Voilà. Okay. Merci bien. En tout cas, ça reste éclairant. Et moi, ça m'a beaucoup plu que ce soit dans ta thèse. En tout cas, ça, à l'endroit aussi, c'est vraiment très éclairant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et au moment où on m'en a transmis une de quelqu'un qui a dû partir malheureusement pour des questions de TD, etc. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Thibaut Desmoulins a dû partir, il s'en excuse, il avait un petit problème. Oui, la question qu'on m'a transmise, c'est une question très formelle, mais pourquoi dans ton titre de thèse, tu parles de l'Angleterre et pas du Royaume-Uni?
Ouais, c'était une question qui a été abordée pendant la soutenance par Aurélien Antoine, on en avait discuté. Pourquoi? Déjà, de manière très simple, c'est parce que j'ai repris le titre que j'avais fixé au départ, mais bon, ça c'est pas véritablement une excuse, c'est plutôt la preuve d'une négligence. Et aussi tout simplement parce que j'avais peur d'avoir à me pencher sur des jurisprudences très spécifiques sur le cas irlandais ou le cas écossais, parce que là, il y aurait eu encore des choses à dire. Et donc, je n'ai pas traité ces questions. Et donc, j'ai préféré parler du cas anglais. Voilà, c'est surtout que je n'ai pas envie de rentrer dans des questions excessivement complexes sur la dévolution, etc.
Okay, du coup, d'un point de vue méthodologique, ça, pour changer le titre de thèse, enfin le titre de thèse, du coup, tu as gardé le même depuis le tout début jusqu'à la toute fin et à aucun moment tu...
Non, il y a une chose qui a changé. D'ailleurs, à la demande du professeur Banger, si je ne me trompe pas, au tout début, c'était le juge face à la doctrine des questions politiques. Études comparées, France, Angleterre, États-Unis. Le juge a disparu du titre. À mon avis, il est encore bien présent dans la thèse, mais effectivement, peut-être que c'est mieux comme ça parce que ça va au-delà. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des arguments. Ça, c'était une question qui m'a assez longuement occupée, alors que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense quand même que la thèse, elle est centrée sur le discours du juge. Et donc, ça n'aurait pas été complètement incohérent de laisser le juge face à la doctrine des questions politiques. Mais c'est quand même, enfin, j'ai l'impression, enfin, toi, si t'as parcouru la thèse, tu pourrais même donner ton avis à ce sujet. J'ai l'impression que parfois, c'est un peu plus large, effectivement, parce qu'il y a quand même une énorme part de la thèse qui est consacrée à la doctrine, qui aurait peut-être été passée un petit peu sous silence si j'avais mis le juge face à la doctrine des questions politiques. Ça aurait presque pu être les discours portés sur la doctrine des questions politiques, mais là, ça devient... C'est bien méta, c'est bien compliqué. Ouais, mais tu peux changer. Ouais. Donc on a finalement fait au plus simple.
Voilà. D'accord. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi que ça va un petit peu plus loin, ne serait-ce que parce qu'effectivement, à la limite, il aurait fallu mettre soit le juge et la doctrine face à la doctrine, ouais. Mais ça fait un peu. Ok. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Il reste des questions, peut-être.
Je pense
a priori. Oui, a priori, on va voir.
Question supplémentaire. Donc, je remercie encore vivement Claire Saunier qui a accepté notre sollicitation et qui nous a livré aujourd'hui une conférence vraiment très riche et très intéressante. Je remercie également tous les participants et leurs questions qui étaient également très enrichissantes. Je rejoins les remerciements de Marcia au début au professeur Baranger de nous avoir fait confiance pour organiser ces séminaires, ainsi que Thibaut Desmoulins qui nous a vraiment énormément aidés dans leur organisation. Et je profite de ces quelques propos conclusifs également pour vous dire que cette séance est une séance inaugurale puisque, vous l'aurez compris, c'est un cycle de séminaires et donc il y aura une deuxième séance le 15 juin à 17h également. Pierre Auriel viendra nous présenter son travail de thèse portant sur le sujet de l'équivalence des protections des droits fondamentaux dans l'Union européenne, réalisé sous la direction des professeurs Baranger et Picot. Nous espérons que cette deuxième séance sera à la hauteur de cette première séance et que certains d'entre vous ou tous viendraient l'écouter à nouveau. Donc je vous remercie et je remercie Marcia aussi d'avoir co-organisé avec moi cette première séance, voilà, et les suivantes.
Merci à tous, hein. Je vous remercie à tous pour vos questions qui m'ont déjà pour l'occasion, pour me donner l'occasion de parler de ma thèse qui n'arrive pas souvent à part le jour de la soutenance, mais je vous avoue que c'est un cadre un petit peu différent. et merci à tous en tout cas pour vos questions, c'était très intéressant pour moi. Merci Laura, merci Marcia.